Bon, alors, je vais vous présenter deux points, là, puis après, il y aura la conclusion. Alors, d'abord, la conception islamique de l'État. Ensuite, les relations du monde musulman avec le monde non musulman. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre dans notre Occident laïcisé et sécularisé, c'est qu'en Orient, l'État n'est pas construit selon les mêmes critères que chez nous en Occident. Dans la conception musulmane, l'État ne peut être que confessionnel. La doctrine classique de l'islam indique que dans un pays où l'islam est majoritaire, le pouvoir doit être détenu par un ou plusieurs musulmans et ses dirigeants étant censés veiller à l'application stricte de la doctrine musulmane en matière donc de pouvoir politique, mais aussi l'application de la charia, la loi et la pratique des mœurs musulmanes. Donc, il n'y a pas de laïcité dans l'islam. La laïcité est un concept inconnu et le mot laïcité n'existe pas dans la langue arabe. Alors, donc, l'islam se présente comme un tout, un système global, on peut dire un système totalisant, qui peut devenir éventuellement, mais ce n'est pas systématique, totalitaire. C'est un tout, un système politico-religieux. Comme je l'ai dit, c'est la doctrine des frères musulmans. L'islam est à la fois société, religion, État. D'où vient cette conception? Elle repose sur l'expérience fondatrice des débuts de l'islam, notamment à la période de Médine, quand Mahomet a été à la fois chef temporel et chef spirituel. Et comme tout ce que Mahomet a fait est normatif, rappelez-vous, c'est le beau modèle, comme dit le Coran, il est donc important de l'imiter. Pour beaucoup de musulmans, la période de Médine est une période idéalisée. Voilà pourquoi c'est si important que l'État soit entre les mains de musulmans, parce qu'en principe, seuls des musulmans, évidemment, peuvent veiller à la bonne application de la charia, la loi islamique. Alors l'État n'est pas forcément théocratique. Il ne faut pas confondre théocratie et confessionnalité, si vous voulez. La théocratie, c'est plutôt le fait qu'à la tête de l'État, le chef est à la fois un homme qui gouverne, bien sûr, sur le plan politique, mais qui a aussi, avant d'accéder au pouvoir, qui était un homme de religion. Je vous donne un exemple concret. Dans l'Iran, en Iran, quand il y a eu la révolution iranienne en 1979, Khomeini a pris le pouvoir. Khomeini était un ayatollah, c'est-à-dire dans le chiisme, une haute autorité religieuse, le plus haut degré d'ailleurs. Et donc lorsqu'il est devenu, il a fait la révolution, il s'est emparé également de l'État. Alors lui, c'était un homme chargé de fonctions religieuses qui a pris le pouvoir et il a instauré donc une théocratie. Aujourd'hui, avec le président actuel en Iran, Ahmadinejad, on n'est plus dans ce cas de figure. Ahmadinejad, avant d'être président, était un homme, un laïc, mais pas au sens laïcité, un civil, si vous voulez, un civil. Voilà. Et donc, en Iran, il n'est pas correct de parler de théocratie aujourd'hui, même si, bien sûr, Ahmadinejad s'applique à respecter la doctrine musulmane dans tous les domaines, en s'appuyant sur les hommes de religion. Mais lui n'est pas... Donc, le régime n'est pas une théocratie. C'est très très rare de trouver des théocraties authentiques. Et même en Arabie saoudite, l'Arabie a deux pôles au sommet de l'État. Il y a le roi donc qui gouverne, mais lui-même n'est pas issu de la caste des religieux, si vous voulez, ou des hommes de religion plutôt. Il est civil Et par contre, bien sûr, il s'appuie sur l'autorité religieuse. Mais voilà, vous comprenez la différence? Alors, dans cet état confessionnel, il faut s'interroger maintenant sur la place des non-musulmans, puisque souvent il y a des non-musulmans dans ces pays, notamment des chrétiens aujourd'hui, et pendant très longtemps, en tout cas depuis l'origine de l'islam, il y avait aussi des juifs. Maintenant, des juifs, il n'y en a presque plus, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, où les juifs ont très largement quitté leur pays d'origine, soit pour aller en Israël, soit pour émigrer en Occident. Alors, on va revenir encore à la doctrine classique dans ce domaine. Il y a un verset que je vais vous lire du Coran qui fonde la doctrine sur laquelle se repose, pardon, le statut qui s'applique aux. Je dis simplement les chrétiens, mais c'est valable aussi pour les juifs, seulement comme il n'y en a presque plus aujourd'hui. Alors voilà, c'est dans la sourate 9, verset 29. Vous allez comprendre. Voilà. Alors, c'est Dieu qui parle à l'impératif. Combattez, deux points, ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui, et là ça devient important, ceux qui parmi les gens du livre, vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier sur les gens du livre? Vous vous rappelez? Donc juifs et chrétiens, ne pratiquent pas la vraie religion, je fais un commentaire après, combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient directement le tribut après s'être humiliés. Alors les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. Donc, les juifs et les chrétiens sont considérés comme ayant reçu une écriture venue de Dieu, la Torah pour les uns, l'évangile pour les autres. Comme du point de vue musulman, c'est toujours le même contenu que Dieu dicte à l'humanité. Là, nous avons les gens du livre qui se sont détournés de la vraie religion, vous voyez. Les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. La vraie religion, c'est l'islam, bien sûr. Alors, combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient directement le tribut, avec un T à la fin, c'est-à-dire un impôt, après s'être humiliés. Donc, sourate 9, verset 29. Ça, c'est le fondement coranique d'un statut que je vais vous décrire, qui s'applique donc aux chrétiens. Ce statut, on l'appelle la dhimmitude. Ça s'écrit D-H-I, 2-M-I-T-U-D-E. Le mot dhimmitude est un néologisme en français qui vient du mot arabe dhimma. D-H-I-2-M-A. Alors, le mot arabe dhimma, on le traduit littéralement par protection. Personnellement, je lui donne une autre traduction. Je le traduis par protection, trait d'union, assujettissement. Vous allez comprendre. Cette traduction, protection, assujettissement, rend de manière plus juste compte de la réalité que sous-entend le mot dhimmitude et dhimma en arabe. C'est-à-dire, le chrétien, il a le droit de rester dans son pays, gouverné par l'islam. Il est protégé d'une certaine manière, on ne va pas le tuer, mais en même temps, il est obligé d'acheter sa protection en payant cet impôt que le Coran appelle le tribut, et il est obligé aussi de se soumettre à la domination de l'islam, si bien que le chrétien n'est pas l'égal du musulman dans la cité gouvernée par l'islam. Ça fait partie d'une des trois inégalités foncières que je vous ai énuméré ce matin, hein, vous vous rappelez. Déjà, il doit accepter que l'islam soit la religion de l'État, il doit accepter que le gouvernement soit entre les mains de musulmans, hein, si bien que, vous l'avez compris, je pense maintenant, on n'a pas la même vision de la vie de l'homme et de la vie en société, donc voilà, il faut accepter cette réalité qui est si étrangère à la conception chrétienne. Et il faut accepter de vivre dans un pays non laïque aussi. Et ça ne va pas forcément de soi. Mais c'est comme ça. Si bien que la protection, assujettissement, voyez, sous-entend que le chrétien, il n'est pas, je vais vous le dire, je crois, un citoyen égal au citoyen musulman qui est, lui, le vrai croyant. Hein. Donc, il, en tant que vrai croyant, a le droit d'avoir un statut supérieur. La dhimmitude est un statut discriminatoire. Alors, ce statut a été forgé dès l'origine, après la mort de Mahomet, au temps du deuxième calife, Omar, O-M-A-R, qui a régné entre 634 et 644. On attribue à Omar la rédaction d'une charte qui s'applique donc aux gens du livre. Vous avez vu que le Coran parle d'humiliation. Il impose aux chrétiens le paiement d'un impôt après s'être humilié. La notion d'humiliation, elle est très importante. Ça signifie bien qu'il n'y a pas égalité entre les ressortissants du même pays selon qu'ils sont musulmans ou chrétiens.